Bonjour Boris Vallaud.
Bonjour.
Des Gaulois réfractaires au changement. C'est comme cela que le président de la République Emmanuel Macron a parlé des Français lors de son voyage dans le nord de l'Europe. Ce n'est pas la première fois qu'il tient des propos comparables lors d'un voyage à l'étranger. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben vous avez raison de le dire, Emmanuel Macron nous a habitués à ce type de sortie. Au fond, tous ceux qui ne sont pas avec lui sont contre la France, n'ont rien compris, sont des conservateurs, des gens qui refusent de regarder le monde en face. Mais la réalité, c'est que la situation n'est pas brillante. Où est-ce qu'on en était il y a un an? La croissance accélérait, le chômage diminuait de façon significative, les déficits se réduisaient, le logement était reparti à la hausse dans la construction comme dans la délivrance de permis de construire. Aujourd'hui, la croissance ralentit, le chômage stagne, les déficits ne se réduisent plus. On est dans une situation qui montre que les recettes de M. Macron, que personne visiblement à part lui ne comprend, ne fonctionne pas. Et au lieu de garder, enfin de changer de cap, eh bien, il continue ce qui manifestement ne fonctionne pas.
Alors le changement, l'exécutif, vous le dites, semble vouloir le poursuivre selon sa feuille de route, qui pour cette année est chargée. Ça commence avec des mesures de lutte contre les déficits. Parmi tout ce qu'a annoncé le Premier ministre dimanche, qu'est-ce qui retient en particulier votre attention?
Le fait que, tout en proclamant qu'il faut que le travail paye, en réalité, l'augmentation du pouvoir d'achat de quelques-uns, on va le chercher dans les poches des retraités. Vous savez, c'est comme si vous alliez demander à votre employeur une augmentation, qui vous la refuse, et vous allez le prendre dans le portefeuille de votre grand-mère. Voilà le programme d'Emmanuel Macron et du gouvernement. Et vous savez, faire les poches des retraités, ça a commencé l'année dernière, ça se poursuit avec la désindexation cette année, c'est considérable. Pour une pension de 1300 euros, c'est 578 euros en moins sur l'année. C'est considérable. Et si vous ajoutez à cela le fait que cette désindexation concerne les APL, et 80% des APL sont touchés par des gens qui sont, pour un certain nombre d'entre eux, en dessous du seuil de pauvreté. Quand vous y ajoutez le fait que, par exemple, l'augmentation de la AAH ne va pas concerner un tiers de ces titulaires parce que les règles de calcul ont été modifiées, on conçoit les choses de façon assez simplement. Il continue de faire de la politique pour quelques-uns.
La AAH, c'est l'allocation aux
Adultes
adultes handicapés.
handicapés.
Ce n'est pas logique tout de même de vouloir réduire les déficits lorsque la dette atteint quasiment les 100% du PIB?
Ce qui n'est pas logique, c'est de décider dans le quinquennat de dépenser 25 à 30 milliards d'euros pour les gens les plus riches qui n'en ont pas besoin. Ce qui n'est pas ce à quoi les Gaulois sont réfractaires, c'est à la remise en cause de leur modèle social. C'est à la tentative de supprimer la sécurité sociale pour lui remplacer un terme plus vague de protection sociale qui la mettrait non pas dans un système paritaire, mais dans la dépendance de Bercy. Ce qui n'est pas normal et ce à quoi les Français sont réfractaires, c'est à l'explosion des inégalités qui sont aujourd'hui à l'œuvre.
De nombreuses réformes sont annoncées. Il y a les retraites, l'assurance chômage, la loi Pacte sur les entreprises. Ça fait un beau terrain de débat démocratique. Va-t-on davantage entendre le Parti socialiste? C'est peut-être le moment, compte tenu des difficultés actuelles du gouvernement.
Je vais vous dire, j'aimerais que ce soit l'annonce d'un grand débat démocratique, de démocratie parlementaire comme de démocratie sociale. Mais depuis un an, cet exécutif nous a habitués à marcher sur les corps intermédiaires et à respecter assez peu les partenaires sociaux et les parlementaires. On l'a vu dans la façon dont s'est déroulée cet été l'affaire Benalla et la tentative de réduire à pas grand-chose les initiatives parlementaires. Oui, le Parti socialiste sera là. Il sera là sur le sujet des retraites, parce qu'il est attaché à un système par répartition et qu'il ne veut pas que nous glissions subrepticement ou alors de façon beaucoup plus claire vers un système assurantiel, qui ne veut pas que l'injustice gagne. Il sera attaché à la défense des carrières longues, de la pénibilité, des petites pensions. Je fais observer à cet égard que le précédent quinquennat avait instauré un compte de pénibilité et qu'il a été démantelé par le précédent gouvernement. Pareil sur la réforme de l'assurance chômage. Ce dont on a besoin, c'est d'un système, puisque le président Macron parle de flexisécurité, mais que ce ne sont pour l'instant, en tout cas dans ses actes, que des mots. On a besoin d'un système de gestion des transitions professionnelles. Vous savez, au Danemark, c'est un haut taux de remplacement, un haut taux d'allocation chômage, là où le gouvernement envisage plutôt de les réduire. C'est le respect des partenaires sociaux. Ce qu'il y a au cœur du modèle danois et d'autres modèles, c'est le dialogue social. Eh bien, ce dialogue social, il est régulièrement escamoté. Vous avez évoqué la loi Pacte. Eh bien, précisément, le Parti socialiste fait une proposition qui a déjà été écartée par la majorité, qui est d'instaurer un système de codétermination dans lequel les salariés, aux côtés des actionnaires, décide de l'avenir de l'entreprise. Parce qu'on a besoin de résister à la domination actionnariale. On a besoin de résister au court-termisme des marchés pour avoir des stratégies industrielles, pour être sur du long terme, pour être sur un modèle de régulation respectueux de l'environnement notamment.
Donc le Parti Socialiste est sorti de son protocole commotion, puisque vous êtes landais et que vous avez certainement l'occasion de voir du rugby. C'est François Rebsamen, le week-end dernier à La Rochelle, qui a demandé à ce que le PS fasse plus de politique. François Rebsamen, c'est un proche de François Hollande. Quelle peut être la place de l'ancien président au Parti Socialiste ?
Eh bien, c'est une personnalité éminente, dont la voix est forte, qui dit, comme nous le faisons depuis des mois, la réalité de ce qu'est le macronisme, et qui est, je pense, à la mêlée, comme tous les militants socialistes, de la base au sommet. Et où en étions-nous il y a un an ? On se demandait si le Parti Socialiste allait survivre. Aujourd'hui, il tient son rang. Il a été la cheville ouvrière d'un premier contre-budget. Il fera un second contre-budget dans lequel il mettra la lutte contre les inégalités en son cœur. Il a été au cœur d'un contre-projet sur la loi Elan qui a, vous savez, déstabilisé la politique du logement avec des chiffres qui sont déplorables aujourd'hui. Il le sera encore dans la loi Pacte, dans les réformes à venir que vous avez évoquées.
Alors, il va devenir un simple militant ou est-ce qu'il aura une place un peu mieux définie ? Vous en discutez avec lui et Olivier Faure, le secrétaire du PS ?
Non, on n'en a pas spécifiquement parlé. Oui, oui. Je vous dis, c'est évidemment une personnalité singulière. Oui. C'était notre président, sa voix est forte. Mais, je veux dire, dans la reconstruction du Parti Socialiste, dans sa renaissance, je veux dire, on ne peut pas compter que sur le soutien aérien. Eh bien, il y a un certain nombre de fantassins, dont je suis avec beaucoup d'autres, qui avancent.
Il faut se mettre peut-être d'accord sur l'inventaire du quinquennat, c'est fait ça ?
Il faut le faire. Ce sera effectif en novembre. Je crois que regarder avec lucidité ce qui nous a conduit à un échec, ce que nous avons réussi, parce que nous avons réussi aussi beaucoup de choses, ce que nous avons raté, il y en a. C'est ce qui nous permet aussi d'envisager l'avenir avec crédibilité. Et nous devons être capables de redevenir le parti de la gauche de gouvernement centrale.
Les Hollandais, comme on les appelle, et l'aile gauche du PS, peuvent-ils encore vivre dans le même parti ?
Eh bien, je l'espère bien. Ce que nous ont demandé les militants, ce que nous ont demandé les électeurs, ceux qui nous sont restés fidèles, comme ceux qui nous ont tourné le dos, c'est entendez-vous, entendez-vous. Cessez de donner le spectacle lamentable de la division. Parlez-vous, rapprenez à vous écouter, à douter, entendre les arguments des autres. Construisez un projet qui vous fédère, et qui ensuite fédérera les Français.
Ces échanges un petit peu aigre-doux, l'affaire de la tête de liste aux européennes, proposée au Belge Paul Magnet, qu'il a refusé alors que Julien Drey avait lui-même proposé ses services, tout cela ne montre-t-il pas que les socialistes ne sont pas encore tout à fait en ordre de marche ?
Qu'un certain nombre de socialistes, et pas tous, gardent un certain nombre de mauvaises habitudes, sans doute. Mais enfin, moi, vous savez, je regarde l'avenir, je regarde le Parti Socialiste pour le meilleur. Il est au travail sur le projet européen, il est au travail sur l'inventaire, il est au travail sur la définition de nouvelles politiques, sur un nouveau modèle d'entreprise, sur un certain nombre de sujets de lutte contre les inégalités.
Comment redevenir la force centrale à gauche alors que la France insoumise semble avoir le vent en poupe ? Vous avez pu le constater vous-même à Marseille ce week-end. C'est la force d'attraction.
Mais nous allons redevenir une force d'attraction par le travail que nous sommes en train de conduire, parce que nous pouvons à la fois être audacieux et réalistes, parce que nous croyons à une démocratie vivante, libérée, pas simplement un tête-à-tête avec le peuple, que nous croyons aux corps intermédiaires, que nous croyons au dialogue social, que nous croyons la participation citoyenne, que nous faisons de la justice et de la lutte contre les inégalités le cœur des politiques que nous entendons définir.
Merci Boris Vallaud.